Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous. On continue à débattre, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC Story. Les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Est-ce qu'ils ont raison d'être aussi pessimistes? C'est notre question jusqu'à 14h. Ah oui, pardon, je croyais que tu allais faire le teasing de 14h. Mais non, parce qu'on s'arrête à 14h. Il y a du vélo après nous. Il y aura Intégral Tour avec Christophe Cessieux pour suivre le Tour de France à 13h50. C'est bon à savoir de l'info et de la bonne humeur avec Lisa-Marie Marquez. On parle de quoi, Lisa-Marie, aujourd'hui?
Bien, depuis ce matin, le doggy bag devient obligatoire dans les restaurants. Alors, c'est quoi un doggy bag? Ça veut dire quoi? Et pourquoi ça devient obligatoire dans les restaurants? Toutes les réponses à 13h50.
Mais avant, on va parler des jeunes. Les moins de 30 ans n'ont pas le moral. C'est le moins qu'on puisse dire. La crise sanitaire leur a sapé la croyance en l'avenir. Selon le baromètre annuel de la DRES, c'est un observatoire de statistiques, l'inquiétude grimpe dans toutes les classes d'âge et dans tous les milieux socio-professionnels, mais elle est particulièrement forte chez les 18-29 ans. La part des jeunes déclarant des difficultés économiques a quasiment doublé, passant de 15 à 28%. En un an, cette classe d'âge est passée de la plus satisfaite à la plus préoccupée par sa situation financière. Et étonnant, cette hausse est particulièrement forte chez les étudiants, bien plus que chez les non-étudiants. Surtout, les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à avoir l'impression de vivre moins bien que leurs parents. En 2020, ils étaient 36% à l'affirmer contre 22% l'année d'avant. Alors, est-ce que les moins de 30 ans ont raison d'être aussi pessimistes? C'est notre question jusqu'à 14h. Emmanuel, tu dis non, ils ont tort.
Oui, je pense qu'ils ont tort. Je comprends qu'il y ait eu une année difficile, mais ce n'est pas pour ça que leur vie va être triste, gâchée, compromise. D'abord, l'histoire...
Alors, envoie du positif.
Bah oui, d'abord, l'histoire nous apprend que ça n'a jamais été le cas. Chaque génération a toujours mieux vécu que la précédente. Alors, ce qui est vrai, c'est que la différence entre cette génération et celle des parents, elle augmentera moins vite que ce qu'ont connu les parents, c'est sûr. Mais la génération de leurs parents et des baby-boomers, il n'y a pas une génération dans l'histoire qui a connu autant de progrès en un temps aussi court. Donc oui, mais ça continue à progresser. La révolution technologique qui est en cours, c'est une révolution qui est quand même riche de promesses. Demain, on va peut-être rentrer dans une phase d'hypercroissance, pleine d'innovation. La dureté du travail, l'esclavage, les contraintes du travail, tout ça est en train de se libérer. On voit qu'on peut travailler de plein de façons différentes. L'égalité homme-femme progresse. En matière d'environnement et d'écologie, le pic de bêtises est très largement dépassé, on fait beaucoup d'efforts. Il y a des innovations absolument incroyables qui se profilent sur le plan technologique. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, surtout pour des diplômés qui ont en fait entre les mains un diplôme qui sera peut-être obsolète techniquement rapidement, mais qui leur donne les capacités d'apprendre en permanence. Et ce sera ça la clé. Au moment où le savoir n'est plus un stock de connaissances qu'on accumule, mais un flux permanent qui se renouvelle, avoir fait les études et avoir appris à réfléchir, quelles que soient les études, je pense que c'est un atout considérable dans le monde de demain. Donc non, je ne vois pas de raison d'être pessimiste.
Laurent.
Moi, non seulement je les comprends, ces jeunes, mais je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter. Alors, je les comprends parce que Emmanuel l'a dit. Je rappelle juste quand même que ça fait un an et demi qu'ils n'ont pas le droit de voir leurs potes, qu'ils n'ont pas le droit de sortir, qu'ils n'ont pas le droit de faire la fête. Certains étudiants n'ont même pas pu aller à la fac pendant près d'un an. Certains n'ont même pas eu l'occasion de rencontrer leurs profs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on leur fait un petit sondage. Alors, c'est comment le moral là en ce moment? Bah oui, le moral, il est dans les chaussettes et je le comprends. Mais en plus, je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter pour l'avenir. Il y a de bonnes raisons. Il y a de bonnes raisons. Tiens, on parlait il y a quelques instants dans le C'est quoi ça d'une région où il fait 50 degrés, le Canada. Normalement, il devait faire 20 degrés à cette époque de l'année. Il fait 30 degrés de plus et il y aurait pas de raison de s'inquiéter. Bah oui, l'incapacité des dirigeants de cette planète à prendre à bras le corps la question du climat, bah quand t'es un jeune de 20 ans ou de 25 ans, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Tiens, on parlait des retraites hier, toi et moi, Emmanuel. Bah, les jeunes d'aujourd'hui savent même pas si leur retraite dans 40 ans seront encore payées. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? La dette. Tiens, on a mis 200 milliards de dettes de plus là pour nous aider à traverser le Covid. Mais du coup, on est à combien? 2200, 2300 milliards de dettes. Qui va les payer? Bah, eux, ils ils ont 20 ans, donc pour les 40 prochaines années, ils ont une dette sur les bras. Tu parlais de l'emploi. Ah oui, ça c'est vrai qu'il y a différentes façons de travailler aujourd'hui. Enfin, la façon la plus moderne, la plus nouvelle, c'est quand même l'emploi à la tâche. Hein, on leur demande tous à ces petits jeunes d'être auto-entrepreneurs. Ils deviennent auto-entrepreneurs de leur propre force de travail. Tu parles d'un progrès. On est dans une société où il y a beaucoup plus d'individualisme que de collectif. Ils n'arrêtent pas de dire, ces jeunes qui cherchent du sens à leur vie, du sens au travail. S'ils le cherchent autant, c'est sans doute qu'ils ont un peu de mal à le trouver. Donc moi, je comprends qu'ils soient inquiets. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tout est nul. Il y a des raisons d'espérer. Déjà, ils sont jeunes. C'est déjà bien d'être jeune, hein. C'est mieux que d'être vieux, je peux vous dire.
Ça dépend pour faire quoi ?
Ça dépend, mais c'est souvent pour faire beaucoup, beaucoup de choses quand t'es jeune, c'est quand même mieux. Mais oui, je comprends qu'ils soient déprimés et je crains, hélas, qu'ils aient raison de s'inquiéter, oui.
On a des jeunes déprimés et des jeunes optimistes qui nous attendent au 32-16, mais avant, Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, on vous pose la question, est-ce que les moins de 30 ans ont raison d'être pessimistes sur l'avenir ? Vous pouvez nous répondre sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec Arnaud qui nous appelle depuis Le Landreau, c'est dans la Loire-Atlantique. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Toi, tu as 30 ans, ta compagne 27 et tu es optimiste.
Tout à fait. Je vais être du côté Le Chypre aujourd'hui.
Merci Arnaud.
L'avenir est plein d'opportunités.
Ouais.
Alors toi, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie qui te dit que voilà, que t'avances, que ça va, quoi?
Très sincèrement, j'ai un parcours de vie qui est assez atypique pour beaucoup de jeunes, qui fait que j'ai grandi pendant quasiment 20 ans à l'autre côté de la métropole française. J'habitais pendant quasiment 20 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ah ouais.
Donc qui est un petit archipel un peu perdu, parce que en général, quand on en parle, personne ne sait d'où ça vient. Et voilà, donc du coup, j'y ai passé mes 20 premières années de vie.
Mais attends, Arnaud, juste pour que tu nous aies, qu'on se fasse une idée, Saint-Pierre-et-Miquelon, donc c'est au large des États-Unis.
C'est combien d'habitants? Canada, on est plus
du Canada, ouais. C'est combien d'habitants? Ça ressemble à quoi la vie là-bas au quotidien?
C'est 6500 habitants.
Ouais.
Au dernier recensement connu.
Tu te rends compte, il y a autant d'habitants que dans mon petit village du Var.
C'est incroyable. 6500 voilà, habitants.
Oui, c'est une toute petite ville où tout le monde connaît tout le monde, donc voilà. Et on va pas se mentir, dans un côté de développement professionnel pour les jeunes, il n'y a pas grand chose à faire là-bas, ça reste assez perdu. Et j'ai décidé à l'âge de 22 ans de partir sur la métropole et de m'installer à côté de Nantes où je suis actuellement.
Ouais.
Et je confirme en fait que mon choix était le bon. La France est plein d'opportunités pour les jeunes. Moi, j'ai parti.
Donc toi, t'as construit ta maison, tu t'es installé à un endroit que tu connaissais pas et t'as fait ton trou, quoi.
Totalement. Je suis parti de Saint-Pierre avec un simple CAP en poche, un CAP charpentier bois en poche, et puis je me suis installé en France.
Est-ce que t'as l'impression que t'as fait plus que tes parents, parce qu'il y a un gros sujet là-dessus avec les jeunes qui ont l'impression qu'ils vivent aujourd'hui moins bien que leurs propres parents, que les perspectives sont moins belles. Est-ce que toi, t'as l'impression que t'es déjà allé au-delà?
Ah, mais totalement. Moi, à l'époque de mes parents, de ce que j'ai appris avec eux, parce que j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts d'esprit, avec qui j'ai beaucoup discuté. Moi, mes parents, ils se sont installés du coup à Saint-Pierre-et-Miquelon quand on était enfant par défaut pour qu'on ait la meilleure éducation possible. Du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'élèves dans les classes, ils se sont saignés un petit peu pour nous, pour nous offrir ce qu'on a aujourd'hui. Ils ont été propriétaires de leur maison à 35 ans. Ils avaient des taux d'intérêt qui étaient absolument élevés sur des durées qui étaient relativement courtes. Chose qu'on n'a pas là, aujourd'hui, nous jeunes.
Alors après, il y a les taux d'intérêt qui ont baissé, mais comme l'immobilier a grimpé, c'est pas forcément facile de devenir propriétaire. C'est justement le sujet de Xavier, qui a exactement le même âge que toi, Arnaud. Arnaud, toi, je crois que tu n'as pas d'enfant. Hein. Xavier, par contre, toi, tu as deux enfants. Vous touchez à peu près la même chose. Et toi, Xavier, tu galères.
Alors moi, je galère, oui. En fait, moi, voilà, quand j'entends Arnaud, c'est vrai qu'il a réglé au client, c'est bien.
Alors Xavier, on t'entend absolument pas, on va essayer
Vous m'entendez là?
Alors vas-y.
Oui, alors, j'entends Arnaud, je vois qu'il est optimiste, c'est bien. Moi, je vois la vraie chose, la vraie vie, la vraie chose. C'est que moi, je suis commercial dans la restauration. Aujourd'hui, ouais. Je gagne via ma vie, je suis quand même aux alentours de 3 000 euros par mois, ce qui est quand même beau. Mais moi, il y a quand même un écart entre la vie d'il y a 20 ans, qui était en francs, et la vie d'aujourd'hui en euros. Aujourd'hui, pour 1 euro par mois, je galère. Et je ne fais pas d'excès. Hein. Je ne vais pas beaucoup au restaurant, je m'amuse, mais je ne suis pas tellement plus dans l'excès. Il y a 20 ans, je pense qu'avec 20 000 francs par mois, on allait souvent au restaurant, on pouvait s'amuser en boîte de nuit sans dépenser des milliers de cents. Et la vie d'avant n'a rien à voir aujourd'hui. Et c'est pour ça que nos parents, à nous, aujourd'hui, ont plus d'argent de côté, parce que la vie d'avant était moins chère. Donc, pour moi,
mais t'as l'impression que toi, c'est le passage à l'euro ou
oui,
c'est
bien sûr.
Ah oui.
Vous prenez l'immobilier. Aujourd'hui, mes parents, ils ont acheté des maisons, ça valait 300 000 francs. Aujourd'hui,
ah oui, ça, c'est clair que euros. Sur l'immobilier, mais Emmanuel, je me tourne vers toi, mais c'est pas forcément le passage à l'euro, c'est la hausse sur tout l'immobilier, non?
Alors, moi, j'ai un sentiment que je partage avec Xavier, c'est que quand j'étais jeune et que je me projetais.
Tu disais, si je gagne 10 000 francs.
Ouais. Voilà, je me disais, si je gagne tant, je me voyais vivre d'une façon...
Tu mettais la barre des 10 000 francs ?
Ouais, je mettais... Alors, la barre des 10 000 francs, c'était important, effectivement. Mmh. Mais moi, j'avais mes parents qui gagnaient... ma mère gagnait plus que mon père parce qu'elle était dans le privé et que mon père était à la SNCF. Ma mère a gagné à peu près 15 000 francs, mon père 15 000 francs. Et moi, je me projetais en me disant, mais ne serait-ce que si je gagnais 20 000 francs par mois... je serais le roi du pétrole. Et il se trouve que quand j'ai commencé, quand je me suis marié et qu'on gagnait à peu près l'équivalent de 20 000 francs... Et ben en fait, je pensais que je vivrais beaucoup mieux que ça. Donc Xavier, je partage ton point de vue sur quand on se projetait petit sur des revenus, on pensait vivre beaucoup mieux qu'avant. Après l'immobilier, c'est pas totalement l'euro, c'est en partie l'euro parce que l'euro c'est les taux d'intérêt très bas et les taux d'intérêt très bas, bah c'est en partie la hausse de l'immobilier. Mais c'est vrai que là je ne peux pas effectivement être en contradiction avec Laurent sur le devenir propriétaire, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui.
Xavier dit quand même un truc juste. Moi, si mes souvenirs sont bons, avant le passage à l'euro, le prix de la baguette devait être autour d'un franc 20. Aujourd'hui, c'est 1,10€, 1,20€. C'est quand même 6 fois plus. Donc, il y a quand même un petit sujet.
Ouais, mais sauf que l'euro, c'était il y a 20 ans sujet. Déjà, Laurent.
Pardon ?
C'était il y a 20 ans.
Je veux dire, aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle petite brasserie de rien du tout, toute simple. Tu t'en tires un repas, un déjeuner aux alentours de 15€. Voilà, 15 euros à l'époque.
Ça il y a 100 francs.
100 francs. Mais avec 100 francs, mais t'es allé dans un super resto.
Ouais, ouais.
Attends, évidemment.
Arnaud, t'es toujours avec nous. Tu voulais réagir à ce que disait Xavier?
Tout à fait. À chaque fois, c'est toujours le même débat. À chaque fois, vous remettez tout au franc.
C'est pas faux.
La personne qui est avec moi en ligne a Xavier, le même âge que moi. Hmm. Nous n'avons pas connu le franc. Moi,
c'est vrai,
personnellement, j'ai connu le franc jusqu'à mes 6 ans. Je ne sais pas ce que ça représente. Allez, arrêtez de systématiquement tout mettre en franc. Je suis désolé. J'ai le même âge que le monsieur. Certes, je n'ai pas d'enfant. On gagne les mêmes revenus. Oui, je ne suis pas dans la même ville que lui. J'habite sur la région nantaise. Mais pour m'accéder à la propriété, je me suis éloigné de Nantes. J'ai pas voulu acheter forcément dans Nantes. Moi, j'habite à 25 km de Nantes. J'ai acheté une maison qui m'a coûté 160 000 euros. J'ai fait un emprunt sur 25 ans. Eh bien oui. Maintenant, on compare toujours la vie dans les grandes métropoles, la vie en région parisienne, la vie à Bordeaux, la vie à Nantes, la vie à Montpellier. Oui, forcément, quand on est dans les centres-villes, la vie coûte très cher. Il faut des gros salaires. Pour les primo-accédants, c'est très dur. Mais on a des belles campagnes qui nous ouvrent leurs portes avec des prix qui sont relativement attractifs, des taux d'intérêt qui sont attractifs au niveau des banques. On a la chance de pouvoir emprunter sur 25 ans, chose qui n'était pas possible pour nos parents avant, qui empruntait avant sur
6%,
pour les minimums 15 ans quand on avait de la chance, avec des taux à 8%.
Toi Arnaud, tu vois clairement le verre à moitié plein et tu as envie de rester optimiste, ce qui n'était pas le cas de Xavier. Mais c'est vrai que Xavier, il a deux enfants, ce qui change quand même, et que un enfant, ça coûte cher. Il y a pas de secret. Non, merci
quand
beaucoup.
Tu te retrouves comme Xavier dans une région sur lesquelles la pression des prix immobiliers est très forte.
Il y a de la pression en Loire-Atlantique aussi quand même,
sur la Côte d'Azur. Franchement, ouais, c'est compliqué. Ouais.
Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus débattre avec nous. En fait, comme Xavier et Arnaud, appelez-nous au 3216 pour nous raconter votre quotidien de jeunes ou de moins jeunes. Notre question, est-ce que les jeunes ont raison d'être si pessimistes pour l'avenir ? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, on est ensemble jusqu'à 14h. Les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Est-ce que les jeunes ont raison d'être aussi pessimistes? Pour Neumann Le Chiffre, non, ils ont tort. L'avenir est plein d'opportunités. Il fait des listes que vous pouvez consulter, des listes de choses optimistes qui peuvent faire du bien. Pour leur Neumann, oui, ils ont raison. Les vieux qui gèrent ce pays ne s'occupent pas d'eux. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de dire les vieux.
Ben pourquoi pas?
Ah bah d'accord, donc on parle comme ça, on parle
de l'émission. Tu connais beaucoup de ministres ou de députés, toi, quand entre 18 et 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Non, mais c'est relativement logique. Enfin, on a un président relativement jeune, quand même.
C'est vrai, c'est vrai. Tu peux me faire la liste de toutes les mesures qui ont été prises pour aider les jeunes pendant la pandémie, là?
Un jeune, une solution.
Ah, ça c'est d'accord, c'est pour la sortie de la pandémie.
Mais bah, ça marche aussi, quand même.
Mais pendant la pandémie.
Ouais, enfin bon.
Quoi?
Juste après, quand même.
Enfin, non, mais je cherche pas.
Un jeune, une solution, quand même, c'est quand même le plan du gouvernement. On peut le critiquer, mais tu peux pas dire qu'il
n'y
a pas de
solution. Pour la sortie de la crise.
Oui.
Mais pendant la crise, pendant 18 mois, pas grand chose.
Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous êtes déjà 79% à répondre, comme Laurent Neumann, oui, les moins de 30 ans ont raison d'être pessimistes pour l'avenir.
Et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chiffre.
32-16.
On est avec Leïla qui nous appelle depuis Saint-Genis-les-Aulières. C'est à côté de Lyon. Leïla, toi, tu es responsable de vie scolaire. Bonjour Leïla, tu as quel âge?
Alors moi, j'ai 40 ans, donc ouais, effectivement, je suis pas dans les moins de 30 ans.
Ah, t'es pas loin, t'es pas loin.
Non, mais j'imagine que tu les fais pas, Leïla, t'inquiète pas.
Ah, ça c'est clair, ouais, super sympa, merci.
Alors, Leïla, est-ce que tu t'inquiètes pour...
Je vais taper sur les doigts, parce que, en fait, moi, c'est pas que je suis pessimiste en termes de... Comment dirais-je, c'est pas que je vois la vie en noir du tout, bien au contraire. C'est simplement que déjà, il faut partir à la base. Moi, je trouve que déjà, le niveau scolaire, déjà, est tellement bas. Qu'en fait, ils ont même plus de perspective. Enfin, je veux dire, moi, je sais même pas comment les jeunes là qui font des études peuvent prétendre à avoir un travail de niveau. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus, enfin, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Et moi, quand je vois les écrits du bac, ça me donne simplement envie de saigner du nez. Tellement, c'est une catastrophe. Déjà, on en est là. Déjà, je trouve que le niveau est bas. Donc, plutôt, on fait
les études protègent pas, quoi.
Je trouve que déjà, je trouve que la revalorisation des diplômes, déjà, je pense qu'il faudrait y réfléchir, déjà pour commencer, parce que tous les jeunes brillants, moi, je peux vous dire qu'ils restent pas en France, hein. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Les vrais brillants s'en vont. Ils le savent. Ils sont pas idiots. Ils savent très bien que en France maintenant, ce qu'on leur demande est moins intéressant que ce qui se passe à l'extérieur. Moi, j'ai deux jeunes frères qui partent. Enfin, d'ailleurs, un d'ailleurs qui est en Australie. On est vraiment dans deux mondes complètement différents.
Ouais, mais Leïla, c'est un point qu'on peut mettre à la limite du côté aussi optimiste. C'est-à-dire que, à titre, effectivement, si tu prends la problématique au niveau du pays, c'est préoccupant. Si tu prends la problématique au niveau d'une génération de jeunes, moi, je me rappelle que à mon époque, quand t'avais un copain qui partait faire des études à l'étranger ou qui allait faire des stages à l'étranger, c'était quand même l'exception. Maintenant, ils raisonnent tous au niveau au moins européen, voire mondial, et après tout, pour leur avenir personnel à eux, c'est pas plus mal.
Moi, oui, mais en même temps, ça voudrait dire quoi? Qu'on laisse notre mémoire vive partir?
Ah, ouais.
Alors après, ils peuvent revenir.
À mon avis.
C'est l'espoir qu'on a, c'est qu'ils reviennent.
J'ai un doute sur le taux élevé des gens qui reviennent. Ça peut arriver. Après, oui, quand ils construisent leur vie familiale, etc., peut-être. Mais moi, je trouve que déjà, quand il faut vraiment voir à la base. Je pense que, alors moi, je suis dans le domaine, donc je vois des choses. Je vais même être un petit peu, je pense que je vais me faire taper dessus, mais moi je trouve qu'on est plutôt dans une fabrique de crétins, pratiquement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un, à l'époque, les dictées. Enfin, je veux dire, moi.
Mais si on a fait un sujet sur le bac, est-ce qu'il a encore un poids, un important? Si on avait beaucoup de profs qui nous ont raconté la même chose que toi.
De la langue française, de l'orthographe.
Ouais.
Je suis hyper à cheval là-dessus.
Donc toi tu dis on sait moins bien compter, on sait moins bien lire, on sait moins bien écrire.
Et d'ailleurs on voit dans l'étude de l'adresse Leïla que les étudiants ne se sentent absolument pas protégés, ils sont même plus pessimistes que les autres. Reste avec nous Leïla, on est avec Christophe Nick, journaliste, réalisateur de documentaires, auteur de Génération Watt. Bonjour Christophe Nick, vous avez suivi pas mal de jeunes pour votre travail de documentariste. Est-ce que vous les trouvez vous pessimistes, étudiants ou pas, peu importe le niveau social d'où ils viennent?
Oui, bien sûr, le pessimisme est total. Il est, Il est marqué depuis longtemps. Il est plus important en France que dans tous les pays d'Europe, mais c'est toute l'Europe est concernée par ça. Il n'y a rien de spécifique, si ce n'est le degré de colère en France. Il n'y a rien de spécifique au pessimisme. Il est marqué depuis la crise de 2008. On l'avait vraiment bien mesuré à ce moment-là. La jeunesse dans son ensemble ne croit pas à l'avenir de notre société et à son modèle. Elle en est exclue. Par contre, au niveau des études, il faut corriger un petit peu ce qui vient d'être dit, cette génération a en moyenne 4 ans d'études en plus par rapport à la génération des années 70-80. Donc il y a d'autres compétences qui sont acquises que celles qui prévalaient dans les années 70-80.
Mais c'est quoi? C'est le rejet de la société de consommation? C'est quoi la société dans laquelle ils ne trouvent pas leur ancrage?
Non, mais pour eux, il n'y a pas de futur dans ce monde. Voilà, le monde n'est pas adapté aux défis qu'il a à affronter, qu'il soit écologique, qu'il soit en Covid, la preuve a été donnée. Tous les défis sont quasi insurmontables dans le cadre de la société telle qu'il la voit. Donc comme il n'y a pas de société alternative, il se retrouve d'un côté dans un pessimisme absolu pour l'avenir de nos pays. Voilà, c'est pas juste la France. Et vous avez le même phénomène en Allemagne, en Angleterre, partout. Hein. Par contre, ils sont optimistes pour eux-mêmes. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui vient d'être dit, ils se sentent suffisamment forts et armés pour pouvoir affronter le monde. Donc on a quelque chose d'assez complexe, qui est un regard très très négatif sur notre monde et un grand optimisme pour soi-même. Moi, je vais m'en sortir, mais pour les autres, ça va être terrible. Et c'est un jugement général qui est assez étonnant. Voilà. Donc, on a une génération.
Mais Christophe Nick, est-ce qu'il n'y a pas une forme de passivité finalement dans cette attitude vis-à-vis du futur? C'est-à-dire, on a envie de leur dire, mais attendez, le futur, c'est vous qui allez l'écrire, c'est à vous de vous emparer de ce que sera demain. Ne le considérez pas comme quelque chose qu'on va vous léguer et que vous subissez.
Absolument, mais ils ne voient pas de solution systémique. Donc le phénomène le plus frappant aujourd'hui, c'est plutôt celui qu'on appelle le faire, c'est-à-dire plutôt d'attendre que le monde bouge ou change, je vais moi-même changer les choses. Donc le phénomène d'aller à l'étranger, de se barrer, d'aller voir autre chose, il est massif, il est mondial, tout le monde va passer, dès qu'on peut, passer une année, deux années, trois années ailleurs, pour aller voir comment ça se passe, et ça c'est plutôt un signe très positif. Mais il est surtout, vous l'avez dans les chiffres du déclassement, ça, c'était noté dès 2009, vous avez ce chiffre assez dingue qui est que 27% des fils de cadres supérieurs sont aujourd'hui des ouvriers ou des employés et 34% des filles. Donc c'est un phénomène totalement nouveau de déclassement qui est parfaitement mesuré et compris et qui est une rupture absolue depuis le début du 19e siècle. C'est vraiment, on est dans une autre époque.
Christophe,
mais
c'est
Christophe, pas forcément ouais. Un choix par défaut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui, même à bac plus 3 ou bac plus 5, décident de devenir charpentier ou faire de la permaculture ou de transformer le monde par eux-mêmes en allant là où ils peuvent aller.
Christophe Nick, je reviens sur ce que vous avez dit il y a un instant. Vous dites que la rupture, vous l'avez notée après la crise de 2008. Est-ce que ce pessimisme des plus jeunes a un rapport direct avec l'économie de marché, la mondialisation, le fait qu'au fond les pouvoirs démocratiques dans les pays n'ont plus la main sur rien et qu'au fond les grandes entreprises, les multinationales ont bien plus de pouvoir et que ce pouvoir leur échappe? Comment vous expliquez que ce soit à partir de cette crise de 2008?
Parce que d'abord, elle les a complètement affectés et justement, contrairement à ce qui se disait, ayant fait plus d'études, ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais ils sont plus armés pour décrypter le monde tel qu'il est. Et donc, ils sont lucides, tout bêtement. Ce monde, l'Europe vit depuis 40 ans dans un chômage de masse et que les premiers sacrifiés sont les jeunes là-dedans. Donc, on avait déjà vu dans les années 90 apparaître les mouvements de génération précaire, génération stagiaire, etc. Ça ne fait que s'accumuler et empirer. Et donc là, la crise de 2008-2009 a été comme un signal absolu. De toute façon, notre monde, comme ça qu'ils le vivent, la plupart, Mais notre monde est en crise permanente parce que le monde est inadapté aux défis qu'il a à relever. Et vous le voyez aussi bien au niveau économique, qu'écologique, que social, que culturel même. C'est quelque chose qui tétanise en fait tout le monde. Il n'y a pas que cette génération. Sauf que elle se retrouve confrontée à assumer un avenir qu'elle n'a pas choisi, qu'elle n'a pas voulu, et d'un monde qui ne correspond pas à ses attentes. Tout bêtement. Et en
mais est-ce que c'est pas le fait de n'importe quelle génération de jeunes, on n'est jamais dans un monde tel qu'on l'aurait imaginé, il y a les externalités négatives, la guerre, n'importe quoi, enfin c'est pas le fait d'être jeune en soi qui fait qu'on est déçu par le monde qui nous entoure?
Non, vous aviez pas ça dans les années 70, 80, 90 où il y avait quand même globalement un optimisme sur l'avenir qui était on peut le transformer. Voilà, et donc toute génération arrive en idée. Évidemment, vous avez raison. Toute génération arrive dans l'idée que le monde n'est pas adapté à lui. Bon, mais il offre des opportunités et on va pouvoir le modeler, qu'elles soient encore une fois des opportunités politiques ou individuelles. Là, le constat est que il n'y a pas d'alternative à ce monde et ce monde s'autodétruit. C'est comme ça qu'ils le vivent. Alors, vous pouvez être de gauche et avoir une vision plus écolo, ou être de droite et avoir une vision sécuritaire, mais tout le monde a peur du futur. Et là, c'est pas générationnel, c'est pour tout le monde. Donc cette société, et encore une fois, c'est totalement européen. On a fait l'enquête, on l'a faite aussi dans le monde arabe, c'est exactement les mêmes résultats. Il n'y a pas de différence de générationnelle entre l'Europe et le monde arabe. C'est assez différent en Asie, je vous le concède, mais c'est très proche aux États-Unis et au Canada. Donc il y a un sentiment d'un monde fini et qui ne sait pas se renouveler. Et là-dedans, personne ne voit dans les élites quoi que ce soit qui puisse bouger. On sent des courants vers lesquels ils peuvent aller, une conception plus écolo, une conception plus identitaire. On voit bien ces tendances politiques émerger, mais elles ne sont pas incarnées et elles ne correspondent pas à des programmes crédibles, et donc c'est désespérant.
Est-ce que du coup, puisque la société est terminée, qu'il n'y a rien à en faire, vous trouvez des jeunes qui n'ont pas du tout envie de faire des enfants?
Oui. Ça aussi, c'est le phénomène. Alors, il faut aussi le mesurer. C'est pas un phénomène massif, mais il y a quand même une tendance, effectivement, en tout cas, en discuter, non pas sur le thème est-ce que je veux ou pas des enfants, mais quel sens ça a d'avoir des enfants aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai phénomène.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe Nick, journaliste, réalisateur de documentaires. Vous avez la société de production Yami 2, auteur de Génération Watt. Un grand merci à Leïla qui était avec nous juste auparavant au 32-16. On sera dans un instant avec William. William, il est étudiant en alternance. Il pense que toutes les opportunités sont devant nous. Il est optimiste et il va nous le faire savoir. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h et on parle des jeunes. Les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Est-ce qu'ils ont raison d'être pessimistes pour Neumann Le Chypre? Non, ils ont tort. L'avenir est plein d'opportunités. Pour Laurent Neumann, oui, ils ont raison. Les vieux qui gèrent ce pays ne s'occupent pas d'eux. Et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec William qui a 24 ans, qui nous appelle de Saintes en Charente-Maritime. Bonjour William.
Salut William.
Bonjour.
William, toi tu es étudiant en alternance et tu es côté Le Chypre. Tu as une petite liste d'opportunités avec toi.
oui. Enfin, sur un plan professionnel, les opportunités, elles sont partout. Encore plus quand on est jeune et comme vous l'avez si bien dit précédemment, on est de plus en plus diplômé ou alors on acquiert des compétences tout au long de nos vies, on est capable de s'adapter. Le mot-clé, ça reste quand même l'adaptabilité. Donc forcément, les opportunités, elles sont partout professionnellement.
Ouais. Et donc toi, quand tu regardes ton avenir, tu te dis, je vais trouver un boulot, ça va bien se passer, je vais m'installer. Enfin, tu y crois?
Ah, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai vraiment aucun problème avec ça.
Dans quel état? Et tes copains, c'est pareil pour tes copains ou pas?
Moi, en fait, dans mon cercle d'amis proches, je suis un des seuls à avoir fait des études. Et comment je vois, comment eux se sont débrouillés sans aucun bagage, y compris qu'un bac, sachant qu'aujourd'hui, on sait que ça vaut pas grand-chose, ils ont quand même réussi à s'adapter, à trouver du travail et à vivre très correctement. Alors certes, oui, le niveau de vie peut baisser, le coût de la vie coûte de plus en plus cher, oui, c'est vrai. Mais il faut vivre dans son monde, il faut vivre avec les acteurs de son monde.
Tu fais une alternance en quoi, William ?
Je suis dans la logistique.
Oui.
Mais
c'est
William,
ton avenir, Emmanuel, la logistique.
Oui, je pense que c'est un métier d'avenir, effectivement, mais ça n'empêche que ta trajectoire future, tu la vois rectiligne ou tu te dis je suis prêt à prendre toutes les opportunités, tu n'exclus rien, tu te dis peut-être que dans deux ans, j'habiterai à l'étranger ou je sais pas. T'es très ouvert à tout ou t'as vraiment une trajectoire de vie déjà tracée dans ta tête ?
Je suis relativement ouvert, mais c'est vrai que j'ai quand même une trajectoire de vie qui est tracée dans ma tête. Je ne vois pas partir à l'étranger tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui est très patriote. J'aime beaucoup mon pays et j'ai l'impression que ça se perd un petit peu chez les jeunes. On le voit avec l'engagement politique, les jeunes sont de moins en moins engagés et c'est assez dommage je trouve.
Tu peux aller faire un stage à l'étranger et revenir, hein. C'est pas un petit peu obligé de quitter le pays.
William, il a raison sur un point, que par rapport à la remarque de Laurent qui est de dire ah bah ouais mais le pays est dirigé par des vieux qui ont rien fait pour eux. Bah, à ce moment-là, effectivement, il y a un moyen de vouloir de se faire entendre, c'est d'aller voter un peu plus.
C'est marrant parce qu'il y a des chiffres que vous citez jamais. Il y a quand même un jeune sur cinq qui est en situation de pauvreté en France. Mmh. En France, il y a un jeune sur trois quasiment, allez, sur quatre ou sur trois, qui éprouve de réelles difficultés financières à la fin du mois. Je veux dire, rien que ces deux chiffres-là, tu comprends pourquoi l'état d'esprit est pas hyper optimiste. Et quand tu entends en plus les débats politiques sur l'avenir, on te parle de quoi ? On parle de, on va tout faire pour sauver le régime de retraite. Désormais, vous allez travailler jusqu'à 64 ans. Il y a des jeunes qui arrivent pas à rentrer sur le marché du travail et ils se disent, les gens qui dirigent ce pays sont en train de se demander s'il faut pas travailler jusqu'à 64 ans. Moi, j'en ai 25, j'ai pas encore trouvé un job. Tu vois, c'est en termes d'état d'esprit, c'est quand même extrêmement difficile à être optimiste. Alors après, tu peux dire oui, bien sûr, je vais me bouger.
Moi, je crois que ça. Il y a des opportunités. On a demandé à Lionel qui est aussi avec nous au 32-16. Lionel, tu nous appelles de Montataire, c'est dans l'Oise. Lionel, t'es étudiant en éco. Toi, quand on dit qu'il va falloir que tu travailles jusqu'à 64 ans, ça te déprime ou pas ?
Non, franchement non. Si moi, j'ai mon père, il est maçon dans le bâtiment, donc moi, je sais que ce sera dans un bureau. C'est pas du tout la même chose. Franchement, moi je trouve l'avenir il est beau, hein, parce que je suis handicapé.
Ouais.
Et il y a 10 ans, faire des études pour moi ça aurait été inutile. C'était pas possible.
Ah ouais.
Alors qu'aujourd'hui c'est accessible. On a des matériaux adaptés. On a des profs un peu plus. Même s'il y en a qui nous font comprendre qu'on n'a pas à être là, mais les profs ils sont un peu plus à l'écoute et on a un avenir. On a je connais des personnes aveugles qui sont ingénieurs, professeurs, donc c'est un peu plus serein pour moi, je me dis. Pour moi c'est un peu trop facile de dire l'avenir. En fait c'est une façon de dire c'était mieux avant le coup de l'avenir il sera pire. Mais je suis pas d'accord avec ça parce qu'avant c'était quand même pire. Il y avait le droit des femmes qui était encore beaucoup discutable, on peut remonter plus loin à la guerre ou l'hyperinflation, il y avait des... Pour moi, je pense si on donne les moyens, on peut s'en sortir.
Lionel,
Juste
une chose, Manu, parce que tu te souviens, il y a pas longtemps, il y avait le bac de philo.
Ouais.
Il y avait un sujet au bac de philo, c'était l'avenir vous appartient-il ?
Ouais.
Ou est-ce qu'on peut changer ?
Êtes-vous responsable de l'avenir ?
Êtes-vous responsable de l'avenir ? Ouais. Bon, et là, t'as deux réponses possibles. Ou tu dis, bah oui, l'avenir, il sera ce que je vais en faire. Moi qui ai 25 ans aujourd'hui, l'avenir, c'est-à-dire les 50 prochaines années, ça va ressembler à ma vision des choses et moi, je vais le faire changer. Mais tu peux dire aussi, l'avenir tel qu'il se présente, il a été façonné depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle par des gens qui ne sont pas préoccupés de savoir dans quel état j'allais retrouver ce pays, le monde, la planète, etc. Et franchement, le monde dont ils héritent, il n'est pas génial. Encore une fois, je te dis, le réchauffement climatique, pardon, quand tu es un jeune de 25 ans, tu te dis, c'est pas évident.
Non mais ok, Lionel, on est d'accord que les 50 degrés au Canada et aux États-Unis, ça donne pas franchement envie d'être optimiste. Mais il a raison, Lionel. Le droit des femmes, l'inclusion dans les entreprises, il y a quand même des choses.
On a fait plein de progrès, heureusement.
Bah oui, donc.
Mais tu vois, par exemple,
tout le temps, c'était mieux avant.
Emmanuel, il citait le progrès technologique comme une source d'optimisme pour demain. C'est vrai, ça ouvre.
Par exemple, sur le handicap pour Lionel,
des opportunités formidables. Mais tu peux aussi le voir comme une source de pessimisme. L'individualisation à laquelle conduisent tous ces développements.
Lionel, si c'est pas trop indiscret, ton handicap c'est quoi ?
Je suis aveugle, moi.
D'accord. Et il y a des attends, bah c'est, enfin je sais pas, Lionel il va nous en parler, mais les moyens technologiques que tu as pour lire, pour aller sur internet, raconte-nous un peu.
Bah là j'ai mon iPad où j'ai la synthèse vocale où dès que je clique dessus il me dit ce qu'il y a sur l'écran. J'ai un ordinateur avec une synthèse vocale, une plage braille. J'ai les professeurs qui font des efforts quand il y a par exemple des schémas à étudier, ils écrivent, enfin ils écrivent un texte avec la description du schéma ou des trucs comme ça. C'est franchement c'est faisable, c'est vraiment faisable. Même tout à l'heure j'ai lu une formation sur Pôle Emploi où ça proposait pour des personnes non expérimentées en informatique ou expérimentées une formation de 6 mois pour devenir programmateur informatique et à la clé un travail entre 1700 et 2500 euros. Et juste à côté, ils avaient mis qu'il y avait justement 90 000 offres d'emploi en Île-de-France pour 45 000 personnes qui postulaient. Donc c'est franchement, quand on voit ça, c'est il y a moyen. Six mois pour avoir un poste comme ça, et, franchement, je me dis qu'il y a moyen de...
Toi, tu voudrais faire quoi, Lionel, quand tu auras fini tes études?
Là, je fais un truc en psychologie et je fais en même temps une double licence en économie. Et j'aimerais bien faire un truc en école de commerce.
Eh ben écoute Lionel, c'est tout ce qu'on te souhaite. Lionel, merci
Super.
Ton optimisme, merci.
Mais tu vas y arriver Lionel, parce que t'as un moral d'acier.
Il a l'agnac surtout.
Super.
Et William salut, aussi Lionel. Qui était étudiant en alternance avec nous dans la logistique, qui était au 32-16. On était avec Louis qui nous appelle de Bordeaux, qui est technicien de maintenance. Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Toi tu as deux enfants Louis et t'es un petit peu plus pessimiste.
Tout à fait, parce que c'est vrai que moi, voilà, on parlait tout à l'heure, on parle de salaire et tout ça, c'est vrai qu'avec 5000 francs, autrefois, on pouvait vivre à peu près ça, facilement. Maintenant, c'est vrai qu'avec 1000 euros, on va survivre maintenant, si on va par là. Quand j'entendais tout à l'heure, pour le point de vue technologique, c'est vrai qu'il y a eu des bons trucs qui ont été faits pour les gens, pour les étudiants, tout ça, mais le niveau scolaire a énormément baissé, parce que moi, si je vois par rapport à ma grand-mère ou mes parents, le niveau scolaire... Il partait beaucoup plus tôt de l'école, on va dire à 16, à 17 ans, 18 ans, il quittait l'école, il trouvait un travail. Mais quand je vois les connaissances qu'ils ont par rapport aux connaissances que j'ai pu avoir, l'instruction que j'ai pu avoir et ce que apprennent mes enfants, il y a trois mondes différents. L'école a énormément régressé. Moi, j'ai passé un bac professionnel. Les professeurs, je vais dire, ils étaient vraiment très nuls. J'ai fait une reconversion à l'AFPA. Ça a été une révélation. Là, j'ai appris 4 fois plus que ce que j'ai pu apprendre à l'école. Il y a un grand, grand écart avec l'éducation nationale. On ne peut pas dire qu'on sort vraiment avec un diplôme valorisant ou disant qu'on peut avoir un travail derrière. Et j'ai eu des stagiaires, des jeunes bac pro. Je me suis jeté en l'air. Les gens, ils savaient pas dessiner. Les gens ne savaient pas régler. Les gens ne savaient même pas utiliser le matériel minimum pour travailler. Donc c'est difficile pour ces jeunes, pour plus tard, pour se lancer. Ils sont peut-être plein d'avenir, ces jeunes. Mais l'éducation et tout ça, je les plains sur la façon dont ils vont aborder après le travail. Pour ceux qui seront surtout dans la partie technique, ceux qui sont dans les bureaux, c'est peut-être différent.
Louis, moi, je reviens sur ce que disait tout à l'heure notre invité Christophe Ny, qui disait quelque chose qui est, à mon avis, important et qui concerne pas que les jeunes. Les jeunes sont assez optimistes pour eux individuellement, et tous les témoignages, tous ceux qui nous appellent là au 32-16 correspondent à ce profil-là. Ils sont plutôt pessimistes d'une manière générale.
Pour la société, mais pour eux-mêmes, ils sont.
Mais oui, et les Français, c'est pareil d'ailleurs. Quand tu interroges les Français, leur morale, qu'est-ce qu'ils pensent de demain, à titre individuel, ils te disent oh, bah, moi, je suis plutôt confiant, pour moi, tout va bien. Mais ce qu'ils voient, ce que le monde donne à voir, les rend pessimistes.
Tout à fait. Et c'est exactement ça, mes enfants. C'est comme ça que je le vois pour mes enfants. Ils sont plein d'avenir. Je pense qu'ils peuvent avoir plein de choses, mais dans quelles conditions? Voilà, ça sera très, très, très dur. Voilà, moi je sais que je l'ai plein pour plus tard. Comme pour moi, on n'en sait rien, parce qu'à 43 ans, on a fait à peine la moitié du travail, quoi. On n'a rien fait encore.
Bon, t'es jeune, 43, t'es un petit jeune.
Merci beaucoup Louis d'être venu débattre avec nous dans Neumann le Chypre. Quel est le résultat définitif, Lisa Marie?
Vous êtes finalement 85% à trouver que les moins de 30 ans ont raison d'être pessimistes sur l'avenir.
Oh, la claque. Hein.
Ah,
après,
oui,
après tous ceux qu'on a eu qui nous ont remonté le moral. Ils m'ont gonflé à bloc.
Parce qu'il y a deux lectures. À titre individuel, ils sont optimistes pour eux-mêmes et ils sont prêts à en découdre.
Mais est-ce qu'il ne t'a pas échappé que les plus pessimistes qui nous ont appelés, c'est plutôt des 35-40 ans, alors que les moins de 30 ans nous ont appelés,
ça rejoint un petit peu ce que disait
assez optimiste.
On va parler restauration tout de suite.
RMC, Neumann Le Chypre.
C'est bon à savoir.
Lisa Marie, tu veux nous parler de doggy bag. Qu'est-ce qu'un doggy bag ?
Doggy bag, c'est le terme anglais qui désigne l'emballage dans lequel le client d'un restaurant peut emporter les restes de son repas. Si on traduit de l'anglais doggy dog, ça veut dire chien, et ça veut dire la boîte pour ramener les restes qui serviront à nourrir le chien. Ça, c'était le prétexte au départ. Et pour en finir avec le gaspillage, cette pratique du doggy bag devient obligatoire dans les restaurants en France à partir d'aujourd'hui. Les restaurateurs ont désormais l'obligation de proposer à leurs clients des contenants réutilisables ou recyclables pour qu'ils puissent emporter les restes à la fin du repas. Et ça, c'est aussi valable pour l'alcool. Donc si vous ne terminez pas votre bouteille de vin, vous pourrez la rapporter à la maison avec le reste de la pizza ou avec un dessert à peine entamé quand on a eu les yeux plus gros que le ventre. Parce que oui, ça arrive. Et cette pratique du doggy bag, elle a été inscrite dans la loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le doggy bag, c'est courant depuis très longtemps aux États-Unis ou en Asie, mais ça a mis beaucoup de temps à arriver chez nous. Le monde de la restauration française y était très réticent en raison de son manque d'hygiène supposée. Et du côté des clients, d'après une étude de YouGov de 2014, demander les restes de son plat, ça fait radin pour 15% des répondants et c'est même impoli pour 11% des Français sondés. Conséquence, les pertes de nourriture sont 5 fois plus élevées au restaurant qu'à la maison. Donc maintenant, pensez-y si vous allez déjeuner ou dîner ce soir au restaurant et si vous ne finissez pas votre assiette, n'oubliez pas de repartir avec votre doggy bag. Je suis sûre que Laurent, tu l'as déjà fait.
Non,
jamais.
Non, c'est pas
il trouve
vrai.
Que ça fait radin. On a eu cette conversation il y a deux jours.
Ça fait radin.
Jamais.
Tu préfères gaspiller?
Non. D'abord, c'est pas moi qui gaspille. Moi, je finis mon assiette.
Ah.
Mais admettons que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre.
Ça arrive.
Je n'oserais jamais dire au chef, au serveur, dites donc, vous me mettez ça dans un petit sac, j'emmène le sac. J'oserais pas. Ne serait-ce que le regard des autres, etc. J'oserais pas. Et je l'ai vu faire au restaurant. Et moi-même, je me surprends à regarder les gens.
En disant,
vraiment, franchement.
On est chez Guy Savoie quand même. Franchement, on n'est pas un
européen. Non, mais c'est que tu es gêné que le serveur, il reparte avec une assiette. Parce que ça arrive parfois, on prend le dessert, au final, on a plus faim. Et l'assiette, elle repart à moitié pleine. C'est dommage, c'est du gaspillage pour le coup.
Oui, mais il ne faut pas gaspiller.
Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je n'ai pas souvenir d'avoir laissé quelque chose dans une assiette au restaurant, sans doute parce que je commande de façon assez, assez pertinente. Donc voilà. Par contre, culturellement, je suis totalement comme Laurent, c'est-à-dire jamais je n'oserais demander. Par contre, je trouve que pour le vin, c'est extrêmement intéressant. Et alors, je n'aurais pas de problème pour la bouteille de vin, par exemple. Parce que finalement, quand tu vas aujourd'hui dans un restaurant qu'on te propose
du vin... Là, ça fait paradin. Si tu t'en vas avec la bouteille de vin à moitié vide, ça fait ivrogne.
Non, mais
c'est autre chose.
Oui, alors c'est pas
trop.
Sauf que la réalité, Laurent, aujourd'hui, c'est que quand tu veux quand une bouteille, ça fait trop, parce que tu dois conduire, parce qu'on n'est pas beaucoup, les choix qu'on te propose au verre sont quand même extrêmement limités. Donc pourquoi ne pas te payer une belle bouteille?
Et partir avec.
Et puis, du coup, tu en bois deux verres, et puis tu conduis tout à fait.
Parce qu'on doit l'acheter pour chez toi, quoi.
Normalement, oui, mais t'as pas le plaisir du repas. Et donc, du coup, là, si le fait de. Je pense que c'est une bonne affaire, parce que du coup, il y a beaucoup plus de gens qui seront incités à prendre des bouteilles entières, quitte à les finir chez eux, plutôt que de boire un verre par-ci par-là, et que même le restaurateur, il gagnera. Et là, psychologiquement, je ne sais pas pourquoi, ça me dérange beaucoup moins de dire, tiens,
comme
j'emporte
quoi,
le reste de bouteille.
Comme quoi, tout ça est une question culturelle.
Absolument.
Merci beaucoup, Lisa Marie. On peut retrouver C'est bon à savoir sur nos réseaux sociaux et sur rmc.fr. Dans un instant, sur RMC, vous retrouvez Christophe Cessieux pour parler Tour de France, intégral tour. On se retrouve demain, midi 14h sur RMC Story. Salut, à demain.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.